Gloire à Dieu. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Le psaume 89. Au verset 20. Je vais lire à partir du verset 16, psaume 89. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. Alléluia. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est ta faveur qui relève notre force. S'il y a quelqu'un qui se sent faible ici, c'est la faveur de Dieu qui relève notre force. Alléluia. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Alléluia. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Alléluia. David dit: tu m'as parlé dans une vision. Amen. Et tu as dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Là, ici encore, nous parlons de l'onction. Et Dieu dit qu'il a oint David de son huile sainte. Et lorsqu'il a oint David de son huile sainte, quelque chose s'est produit. Quand Dieu te oint, la Bible dit: sa main te soutient. Son bras te fortifie. L'ennemi ne te surprendra pas. Et le méchant ne t'opprimera pas. Alléluia. Nous devons comprendre que l'onction de Dieu n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de précieux. Quelque chose qui vient pour nous donner ce qu'il faut pour avancer. Et il y a des gens qui diront: oui, mais moi j'ai une voiture, je peux avancer. Mais l'onction, ce n'est pas la voiture. L'onction, si je peux l'imaginer ainsi, c'est le carburant qu'on met dans la voiture. Comme les vierges folles. Elles avaient la lampe, mais elles n'avaient plus l'huile qui va dans la lampe. Tu as le corps qui est le véhicule. mais tu as le carburant du corps, qui est l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, si vous avez deux personnes qui ont une voiture, les deux vont dire, moi j'ai une voiture, l'autre va dire, j'ai une voiture. Mais celui qui a du carburant dans sa voiture, il ira plus loin et plus vite que celui qui n'en a pas. Quelle que soit la force que vous avez, quelle que soit la vitesse avec laquelle vous courez, quelle que soit l'endurance que vous avez, vous ne pourrez jamais pousser une voiture plus vite qu'une voiture qui roule avec le carburant et avec l'essence. Et malheureusement, parce que nous avons ignoré ce fait, on retrouve plusieurs chrétiens qui sont en train de pousser leur voiture. Mais si tu dois pousser ta voiture, même pour aller dans le quartier qui est à côté, tu peux mettre des jours et des jours. Et tu peux même mourir en route. Alors que quelqu'un qui a du carburant dans son véhicule, il peut même faire le tour de la France. Ce carburant-là, l'onction-là, c'est primordial. C'est indispensable. David n'aurait pas pu arriver là où il est arrivé s'il n'avait pas reçu l'onction du Saint-Esprit. Pierre n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait reçu l'onction du Saint-Esprit. Paul n'aurait pas pu accomplir ce qu'il a accompli s'il n'avait reçu l'onction du Saint-Esprit. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Nous sommes appelés tous à être des oints de l'Éternel. Surtout dans ces temps qui sont les temps de la fin. L'onction de Dieu doit couler dans nos vies, car il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous savez, nous vivons des temps qui sont privilégiés. Nous vivons des temps qui sont extraordinaires. Dans les temps anciens, il n'y avait que le roi, le prophète et le sacrificateur qui recevaient l'onction. Et l'onction venait sur eux de temps en temps. Nous vivons dans des temps où nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc nous avons ces trois onctions-là qui sont en permanence sur notre vie. Et quelque chose qui est encore plus extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, il ne vient pas sur nous, mais il est en nous. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à mesurer la capacité et la puissance et le pouvoir et la grâce que Dieu nous transmet en mettant son esprit. Oh my God. C'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est lui-même son esprit. Le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux lorsque la terre était informe et vide. Le même Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Le même Saint-Esprit qui a conçu Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui a animé son ministère terrestre. Le même Saint-Esprit qui l'a utilisé pour accomplir des miracles et des délivrances et des guérisons. Le même Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts. Mais cet esprit-là, que Dieu a mis en nous. Savez, la Bible dit que de tous les péchés, de tous les péchés qu'on peut commettre, certains peuvent nous être pardonnés. Les péchés qu'on commet contre le Père, les péchés qu'on commet contre le Fils. Mais la Bible dit que tout péché qui sera commis contre le Saint-Esprit, ça ne nous sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Est-ce que vous savez que le plus grand péché qu'on puisse commettre à l'encontre du Saint-Esprit, c'est de ne pas le reconnaître tel qu'il est? En réalité, beaucoup de personnes pêchent continuellement contre le Saint-Esprit lorsqu'ils ne réalisent pas que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. On l'insulte, on le maltraite, on l'attriste, on le méprise. On ne le prend pas à sa juste. Oh my God. Est-ce que vous savez que Dieu, lorsque Dieu doit accomplir quelque chose, il y a, dans toute structure, vous avez celui qui décide et puis vous avez celui qui met en application. Et dans le rôle au ciel, le Père décide. Mais celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est quasiment impossible de pouvoir bâtir quelque chose ou de pouvoir faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Or, ce Saint-Esprit-là, il n'a pas choisi d'être loin de nous, il a choisi d'être en nous. Donc, il est avec toi. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, il est là, il est en toi, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de partir parce qu'il n'en peut plus. Et le jour, si un jour, le Saint-Esprit, parce que le Seigneur a dit, mon esprit ne va pas lutter tout le temps avec vous. Et la Bible dit, car il jalouse l'esprit qu'il a mis en nous. Oh my God. Tu sais, quand Dieu te donne la chose la plus précieuse qu'il a, même toi, tu fais un cadeau à quelqu'un, mais tu ne lui fais pas n'importe quel cadeau. Tu rentres chez toi, tu regardes dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu as. Tu peux lui donner une chemise, mais qu'est-ce que c'est qu'une chemise? Tu peux lui donner une voiture, mais qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Tu peux lui donner une maison, mais qu'est-ce que c'est qu'une maison? Tu regardes et tu vois la chose la plus précieuse, la chose qui a le plus de valeur à tes yeux, qui a un coût et dont tu sais que cette chose-là va pouvoir révolutionner la vie de la personne. Et tu prends cette chose et tu lui dis, tiens, c'est le cadeau le plus précieux que je peux te faire. Et parce que la personne manque de discernement, parce que la personne manque de sagesse, parce que la personne, je veux dire, est centrée sur des choses physiques et sur des choses terrestres. Elle dit, au lieu de me donner une chemise là, c'est ça que tu me donnes. C'est-à-dire, il méprise le don que tu lui as fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-moi, rends-moi ce que je t'ai donné, c'est pas grave. Si tu connais pas son importance, tu sais pas que c'est, je t'ai donné la chose la plus précieuse. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 12. Regarde ce qu'il dit. C'est très important. Si tu as ta Bible, tu soulignes ça en même temps. Il y a des versets dans ta Bible qui doivent être soulignés, surlignés. Comme ça, quand tu ouvres ta Bible, déjà, ces versets-là t'appellent. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. On peut déjà même s'arrêter là. En vérité, je vous le dis. Je vous ai dit, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire le Père. Deuxième, en vérité, le Saint-Esprit. Je vous le dis, le Fils. Ça veut dire que c'est une vérité qui est établie pour l'éternité. C'est quelque chose, c'est vraiment une parole qui est une parole fondement sur laquelle on peut s'appuyer. Il dit, en vérité, je vous le dis, ça veut dire qu'il engage le ciel. Il engage son Père. Il engage le Saint-Esprit. Il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Donc, si tu ne fais pas les œuvres que Jésus fait, c'est que quelque part, tu ne crois pas en lui. Mais celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il fera des grandes choses. Et il va plus loin. Il dit, il en fera quoi? De plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Il en fera de plus grandes. Il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire de plus grandes choses même que moi. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu sur la terre qui font de plus grandes choses que Jésus. La plus grande foule que Jésus ait jamais réunie pendant son ministère, on peut l'évaluer à peu près à 10 000 personnes. De son vivant. Enfin, du temps où il était sur la terre. Puisqu'on parle d'un moment où il y avait 5 000 hommes. On suppose qu'il y avait autant de femmes et d'enfants. Disons même, on peut même monter jusqu'à 15 000. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui réunissent 60 000, 100 000. Il y a eu des veillées de prière avec 1 million de personnes. La plus grande veillée de prière du monde, il y avait 6 millions de personnes. 6 millions de personnes. Même les chaînes de télévision comme les CNN sont allées survoler ça avec des hélicoptères. Quand on dit 6 millions, c'est 6 millions. Dans la moitié de certains pays, toute la population est à la veillée de prière. Dieu a utilisé des gens pour faire des choses sur cette terre-là. Il y a des pasteurs qui ont bâti des églises de 60 000 places, 50 000 places. Il y a des églises où lorsque même on lance l'appel pour venir tout simplement recevoir la prière, c'est des bus. Ils quittent aux cinq coins de l'église et les gens montent dans les bus parce qu'ils doivent parcourir au moins 1 kilomètre d'abord avant d'arriver. Et ces gens-là, ils vivent là, actuellement où je suis en train de parler. Ils existent et ils vivent et ils ont bâti ces œuvres-là. Vous pensez que ça s'est fait sans onction? On pleure sur nos problèmes, on pleure sur nos petites affaires. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Au verset 16, il explique comment est-ce qu'on va arriver à faire de plus grandes choses que lui. Il dit, si vous m'aimez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il dit? Gardez mes commandements. Tu lèves la main, tu dis j'aime le Seigneur. Mais c'est pas, oui moi j'aime le Seigneur, c'est pas comme ça que tu montres que tu aimes le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, la meilleure manière de montrer que tu aimes le Seigneur, c'est de garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et regardez maintenant ce qu'il va faire. Il dit, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, le Saint-Esprit, on est appelé à demeurer éternellement avec lui. C'est une histoire qui commence sur la terre, mais qui ne finira jamais. Quand tu reçois le Saint-Esprit, my God, tu reçois la chose la plus précieuse que Dieu puisse te donner. C'est une personne, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose, hein. Ce n'est pas un appareil ou ce n'est pas... C'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui entre dans ta vie pour pouvoir marcher avec toi et pour pouvoir accomplir le mandat de Dieu à travers ta vie et avec qui tu es scellé pour l'éternité. pour ça que je te dis, il n'y a pas un enfant de Dieu si il attriste l'esprit au point que l'esprit parte. Il n'y a aucun moyen pour lui pour être sauvé. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Amen. Il dit au verset 16, « Et moi, je prierai donc le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et il parle de lui maintenant, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, qu'est-ce qui caractérise? Qu'est-ce qui caractérise les personnes du monde? Qu'est-ce qui les caractérise par rapport à ce qu'on a lu? Qu'est-ce qui caractérise les personnes du monde? C'est qu'ils ne connaissent pas l'esprit. Qu'est-ce qui caractérise les enfants de Dieu? Ils connaissent le Saint-Esprit. Donc comment se fait-il que aujourd'hui nous avons dans l'église des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui ne connaissent pas l'esprit? Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils auront renié même ce qui fait la force de l'évangile. Pourquoi? Parce que ce qui fait la force de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand on connaît Dieu, c'est impossible de connaître Dieu sans connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître Dieu, de comprendre Dieu, de comprendre les voies de Dieu. Comment peux-tu avoir... Oh my God, my God. C'est-à-dire que ne pas connaître le Saint-Esprit, mais c'est grave. On doit rétablir la position du Saint-Esprit dans l'Église. C'est grave. Lui-même qui a insufflé, lui qui est à l'origine même de la naissance de l'Église. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est descendu que l'Église est née. Normalement, on ne devait même pas avoir à le présenter. Tout enfant de Dieu, la première personne qu'il doit connaître, c'est le Saint-Esprit. Il doit apprendre à connaître, à entendre sa voix. Il doit apprendre à reconnaître sa voix. Il doit apprendre à marcher avec l'Esprit de Dieu. Il doit, oh my God, si chacun d'entre nous, c'est ce que le Seigneur a dit, il dit, vous ferez, celui qui croit en moi, il fera les choses que je fais, il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je prierai le Père. Si vous respectez mes commandements, je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit, et il sera en vous. Donc quand Christ prie, quand il fait sa prière, quand il intercède en faveur de quelqu'un, quand il prie pour que la vie de quelqu'un soit transformée, soit bouleversée, soit changée, lorsqu'il crie à Dieu, il demande que Dieu mette son esprit en nous. Parce qu'il sait que c'est l'acte le plus puissant, l'acte le plus fort, l'acte le plus transformateur, l'acte le plus valable qui puisse s'opérer dans notre vie. Et nous méprisons cela. On méprise l'esprit. L'esprit de Dieu qui était à la fondation du monde, il est en nous. Et on le méprise. On l'insulte, on l'attriste, on vit n'importe comment, on l'amène ici, on l'amène là, on l'amène dans des endroits où il n'a même pas vraiment. Les gens du monde, ils ne peuvent pas le recevoir. Ils ne peuvent pas le connaître. Les enfants de Dieu qui doivent le connaître, ils ne le connaissent pas. Et on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. Seigneur, je ne comprends pas. Mes affaires sont bloquées. Seigneur, je ne comprends pas. Ma vie est bloquée. Je tourne en rond. Mais tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit. Tu ne sais même pas la reconnaître. Tu es en train de pousser un véhicule sans carburant alors que tu devrais t'asseoir dedans et voyager tranquillement. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Dedans, tu vois encore, tu as deux des sept, hein, des sept esprits, tu en as deux. Et il t'en donne un troisième, qui est l'amour, dont on avait parlé. Je dis, dans le verset dans Ésaïe 11, on en avait parlé de six, et il en manquait un, puisqu'on parle des sept esprits de Dieu. Et le septième, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Donc, il dit ici, c'est dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. » En réalité, celui qui a traduit cette Bible-là, il a quand même fait beaucoup de travail. Mais vraiment, il y a des mots et il y a des expressions qui fragilisent et qui tournent le sens et qui dénaturent le message. Parce que, en réalité, le mot qui a été traduit par « vous n'avez pas reçu un esprit de timidité », en fait, lui, je ne sais pas, il a compris timidité, mais le mot-là peut avoir aussi d'autres traductions parmi lesquelles il y a « vous n'avez pas reçu un esprit de faiblesse ». Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous diminue. Vous n'avez pas reçu un esprit de limitation. Vous n'avez pas reçu un esprit de pauvreté même. Vous n'avez pas reçu un esprit, voilà, qui vous empêche d'avancer. Mais vous avez au contraire reçu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, c'est pas pour que on puisse reculer ou qu'on puisse perdre notre force, perdre notre puissance, perdre notre identité. Au contraire, quand l'Esprit vient en nous, il vient pour nous révéler à nous-mêmes. Il vient pour nous donner de la puissance. Il y a une sorte de d'empowerment qui se produit, de puissance qui vient dans notre vie. Il vient pour impacter notre vie et nous donner maintenant le pouvoir de changer les choses dans notre vie. Mais nous, on a tendance à négliger ça. Et puis, à regarder les problèmes. Et à dire, oh Seigneur, jusqu'à quand cette situation-là va durer dans ma vie? Eh, tu n'as pas pitié de moi. Et tu penses que tu es en train de faire une grande prière. Quand tu vas et puis tu dis, oh maman Marie, mère de Dieu, prie pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Dieu, ça dit que c'est même pas, laissez les affaires de mère de Dieu. C'est son esprit que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il a mis son esprit en toi. Oh my God. Oh my. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour pouvoir commencer à façonner l'univers autour de toi. Dieu lui-même a eu besoin que l'esprit soit sur la terre informe et vide avant qu'il dise « Let there be light », qu'il y ait la restauration de la lumière. Pour que la lumière soit restaurée dans ta vie, il faut que l'esprit de Dieu commence à agir en toi. Tu as la semence. Elle a été déposée en toi. Et tu la négliges. Tu regardes ailleurs. Tu ne lui donnes pas sa place, tu ne lui donnes pas sa position. Tu. Oh my God. On doit se repentir. Vous savez, moi, quand j'ai réalisé la personne de l'Esprit, quand j'ai réalisé son rôle, quand j'ai réalisé ce que Dieu avait fait pour nous et la prière que Christ avait faite pour nous. Quand il a prié, il n'a pas dit « Donne-leur de la puissance, donne-leur de l'intelligence. » Il n'a pas dit « Donne-leur de la sagesse, il n'a pas dit « Donne-leur de l'argent. » Il n'a pas dit « Donne-leur vraiment de pouvoir briller. » Il n'a pas dit « Donne-leur. » Il ne s'est même pas concentré sur toutes ces choses-là. Il a dit « Donne-leur un autre consolateur, le Saint-Esprit. » Parce que le Saint-Esprit, il est la source de toutes ces choses-là. Il est la source. Il est la source. Même la prospérité, la richesse, il est la source. Il est la source de la réussite. Il est la source de la percée. Il est la source de tout ce que tu peux demander. Donc aujourd'hui, où est ton problème? C'est que tu dois soigner ta relation avec le Saint-Esprit. C'est là le problème. Le problème, c'est que tu penses que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui tu peux t'amuser. Que tu peux venir jouer la comédie à l'église et puis faire après comme si vraiment tu t'es rempli de l'esprit. Tu penses que c'est quand tu danses sur toi ou bien que tu trembles et ce genre de truc. Tu penses que là c'est la manifestation de l'esprit. Et tu es content parce que comme tu trembles et tu pleures et tu cries et les gens se disent oh quelle femme remplie de l'esprit. Et tu es là, tu joues avec le Saint-Esprit. Tu joues avec celui qui tient ton salut. C'est-à-dire que, oh my God, tu ne peux pas jouer avec lui. Dieu lui-même dit, tu peux jouer. Moi là, tu peux me dire, tu vois. Nous là, vraiment, on a, avant de connaître le Seigneur, on a blasphémé contre Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre Dieu? On a blasphémé contre le Seigneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il y a même des chansons où carrément on se moque de Jésus et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Dieu dit, pour moi là, ça peut passer. Pour Jésus-Christ, ça peut passer. Mais le Saint-Esprit, dans le siècle présent, même dans le siècle à venir, il y a des gens qui vont pleurer comme ça. Mais ça ne sera pas possible. Ne néglige pas l'Esprit que Dieu a mis en toi. On n'est pas d'une course à l'argent. On est d'une course pour la vie éternelle. Alléluia. On devait parler de l'onction pour les affaires, c'est ça? Ah, le Saint-Esprit, lui, il connaît vos cœurs. Et il parle en fonction de vos cœurs. Il parle en fonction de ceux que vous avez besoin d'entendre. Et aujourd'hui, avant, tu sais, ce n'est que quand tu vas réellement réaliser d'abord celui qui est en toi, qui est en toi, et qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est là que tu vas maintenant commencer à comprendre pourquoi est-ce que Dieu veut que tu prospères. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois riche. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois prospère, que tu sois béni, que tu vives dans l'abondance? En réalité, la raison pour laquelle on veut prospérer est importante. Il ne faut pas vouloir prospérer pour des mauvaises raisons. Il faut d'abord qu'une réelle base soit établie. Tu prospères pour qui? Tu ne prospères pas pour toi. Tu prospères pour le royaume de Dieu. Tu prospères pour être capable de mieux servir ton Dieu. Tu prospères pour être capable de mieux influencer le monde. Mais si déjà la base n'est pas là, tu cours derrière du vent. Parce que si la base est là, quand l'esprit vient, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer de se faire dans ta vie. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous ai dit, on vous dit souvent, quand vous donnez votre vie au Seigneur, les choses anciennes sont passées. C'est pas quand vous donnez votre vie au Seigneur, hein. C'est quand l'esprit, quand l'onction descend dans votre vie, c'est là que vous subissez une réelle transformation. Pierre a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Il n'était transformé que lorsque l'esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est là que les choses anciennes sont passées. Le jour de la Pentecôte, et que les choses sont devenues nouvelles. Le même Pierre qui avait peur, le même Pierre qui fuyait devant les, le même Pierre qui a renié Jésus, il était devenu une nouvelle créature. On ne pouvait plus le reconnaître. Il y a des choses que l'esprit produit dans notre vie. Même quand tu ne les recherches pas, c'est automatique. C'est automatique. Jésus a vécu pendant 30 ans dans l'anonymat. Personne ne le connaissait. Il n'a rien fait, rien accompli, rien délivré personne, guéri personne. Joseph, même son beau-père, est mort. Il n'a pas ressuscité. Mais ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, l'a conduit dans le désert. La Bible dit qu'il est revenu du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée, maintenant, a commencé à se répandre. Pas d'onction. Vous savez que maintenant, c'est encore de plus en plus difficile de pouvoir influencer le monde. Du temps de Jésus, ils étaient même pas 900 millions sur la terre. Même pas 500 millions. Il y a 40 ans de cela, on n'était même pas à 2 milliards. Aujourd'hui, 7 milliards. Ça, ça prend quelque chose pour sortir du lot de ces 7 milliards-là. Et ça, c'est donné à ceux qui sont loin du Seigneur. Le problème, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de chrétiens en nombre, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont l'onction dans leur vie. Le pourcentage de chrétiens ouais, ne fait que diminuer. À tel point que dans une église, vous pouvez avoir même 500 personnes, il y en a même pas 15 même qui connaissent le Saint-Esprit. Mais on pense connaître les 5 techniques pour pouvoir gagner plus. Les 4 techniques pour pouvoir attirer un mari. On vous donne des solutions, mais on oublie la source de la solution, c'est le Saint-Esprit. Alléluia! C'est le Saint-Esprit! Oh my God! Je ne sais même pas si on va parler de cette affaire, des affaires et tout ça. Ce qu'on a vu, vous avez vu, 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas un esprit de timidité donc, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Tu vois? Qu'est-ce que tu vois dedans? Il y a force, amour et sagesse. Force, amour et sagesse. Donc, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour qu'on soit écrasé, pour qu'on soit dominé, pour que les gens puissent avoir le dessus sur nous. Donc vous voyez déjà que Dieu veut nous positionner de telle sorte que nous puissions exercer au contraire cette force-là, cet amour et cette sagesse. Donc vous allez comprendre que dans la nature même de celui qui est en nous, il est impossible que Dieu nous maintienne dans un état d'échec. Ok? Ou bien dans un état de pauvreté. Quand vous prenez par exemple Proverbe chapitre 22. Proverbe 22, verset 7. La Bible dit, le riche domine sur les pauvres. Tu vois. Le riche fait quoi? Domine sur les pauvres. Donc un riche, il écrase plusieurs pauvres. Et celui qui emprunte, il est quoi? Est l'esclave de celui qui prête. Donc vous voyez que d'être dans une position de pauvreté nous met dans une position d'infériorité. Okay? Or, rappelez-vous bien, le même mot qui est traduit par timidité, c'est la même chose. Vous n'avez pas reçu un esprit d'infériorité. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend inférieur, mais vous avez au contraire reçu un esprit qui vous rend fort, qui vous rend sage et qui vous donne de l'amour. Donc, Dieu ne peut pas vouloir que nous marchions dans un état d'infériorité par rapport aux riches de ce monde. Vous comprenez? Maintenant, je ne sais pas si je veux rentrer dedans parce que ça va nous prendre du temps. Maintenant, en fait, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que lorsqu'on a parlé des 7 esprits de Dieu, Nous avons vu l'amour, nous avons vu esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de conseil, esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez que l'Esprit de Dieu, donc quand il vient, l'onction c'est ça, l'onction, il y a plusieurs domaines dans l'onction. Pendant longtemps, on a pensé que c'était que la force, l'esprit de force. Mais on n'a pas appris à considérer les personnes à qui Dieu a donné une sagesse extraordinaire. Amen. À qui Dieu a donné aussi une intelligence. Ça aussi, c'est des manifestations de l'onction. Maintenant, je vous ai dit que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il nous donne effectivement plusieurs aptitudes. Et une des aptitudes, une des capacités qui va toujours amener quelqu'un à avoir tout ce dont il a besoin sur cette terre et à marcher dans l'abondance et à réussir tout ce qu'il fait, c'est la sagesse. Oh, l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Tu vois, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous n'avez pas reçu un esprit d'infériorité, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous diminue, mais vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dis à ton voisin, sagesse. Je vais te montrer un passage dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 16, je crois. Je pense que ça va nous servir de transition pour demain. Normalement, aujourd'hui, on devait parler justement de l'onction pour les affaires. Mais Dieu a choisi de nous parler de l'esprit d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler d'onction sans parler du Saint-Esprit. Alléluia. Donc demain, on va continuer. Mais avant qu'on ne parte, avant qu'on finisse, on va voir le Ecclésiaste chapitre 9, verset 16. Il dit, ça c'est l'Ecclésiaste, hein, un des hommes les plus sages, sinon l'homme le plus sage, hein, il a reçu la sagesse également comme don. Il dit au verset 16, il dit, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Amen. Donc l'esprit de sagesse, ça veut dire que si tu dois choisir, tu vois, dans les sept manifestations de l'esprit, il a mis de toutes les façons en tête esprit d'abord de sagesse et esprit d'intelligence. C'est tu dois d'abord l'esprit de sagesse. Il dit, oh, j'ai vu que la sagesse vaut mieux que la force. Amen. Et ensuite, il dit, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Vous savez pourquoi? Parce que là où il y a la sagesse, il est impossible de trouver la pauvreté. Tu vois? C'est que quelqu'un qui a l'esprit de sagesse ne peut pas être pauvre. Quelqu'un qui a l'esprit de sagesse ne peut pas ne pas savoir gérer son entreprise. Il ne peut pas ne pas savoir comment faire pour pouvoir aller de l'avant. Parce que la sagesse est une des manifestations de l'onction pour justement tout ce qui est homme d'affaires, femme d'affaires, homme prospère, homme gestionnaire, administrateur et toutes ces choses. Amen. La sagesse. Parce que vous avez la connaissance. On a vu esprit de connaissance. La connaissance répond à la question quoi? Ok. Vous avez l'esprit d'intelligence. L'intelligence répond à la question « Pourquoi ?» Ok. Et vous avez l'esprit de sagesse. Et la sagesse répond à la question « Comment ?» C'est la sagesse qui te dit « Comment ?» Comment faire ci ? Comment faire ça ? Comment arriver là ? Comment produire ci ? Comment produire ça ? Comment ? Et je dis, ce don-là, il est même important aussi bien. Il est important pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas la manifestation de l'esprit, de la sagesse dans sa vie, mais il va passer son temps à faire que des erreurs et des erreurs. Il va recommencer sa vie. Il va faire des erreurs. Il va perdre son temps. Voyez. Et l'Esprit de Dieu, dans sa manifestation, lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il lui apporte la sagesse. Tu vois. Normalement, aujourd'hui, je devais vraiment développer cette partie-là. Mais vu que le temps est quand même assez avancé, on va continuer demain. Donc, je vais essayer de mélanger les deux pour le ministère, l'onction pour le ministère, l'onction pour les affaires. De toute façon, l'onction, il n'y a pas... Je dis, ou tu as l'onction, ou tu ne l'as pas. Quand tu as l'onction, quel que soit le domaine dans lequel tu es, l'onction, là, va se manifester. Daniel, il avait l'onction. Joseph avait l'onction. Joseph, ce n'était pas un prophète. Joseph n'est pas venu faire des croisades d'évangélisation. Mais l'onction... la sortie de la prison et l'a installée dans le palais en Égypte, tu vois. Ça c'est l'onction. De toutes les façons, dans la Bible, tous ceux dont on parle dans la Bible, ce sont des gens qui avaient l'onction du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont été touchés de manière particulière, y compris Samson. Vous voyez, c'est l'onction qui te distingue, c'est l'onction qui fait de toi. Amen. Et souvent, vous savez, quand on parle de, je pense que je vais finir par ça, quand on parle de bénédiction, sachez que, je vous ai dit, hein, la bénédiction, c'est l'onction. Ok? La bénédiction, c'est l'onction. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne fais pas descendre la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose de matériel. La bénédiction, c'est, c'est l'onction. Ok? Et quand bien même, et si tu regardes, et c'est par là qu'on va finir, tu regardes dans Deutéronome 28. Donc, vouloir être béni sans onction, c'est une mission impossible. Sachant que Abraham a été le premier dans beaucoup de choses. Il a été le premier à donner la dîme, il a été le premier à prier Dieu, il a été le premier à faire certains sacrifices, il a été le premier dans beaucoup de choses, à se faire circoncire, mais il a été également le premier à être oint par Dieu. Tu vois? Parce que quand tu regardes les caractéristiques de la bénédiction d'Abraham, le Seigneur dit que Christ est fait pour nous malédiction, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Et quand on regarde la bénédiction d'Abraham dans Genèse, on voit, il dit, je rendrai ton nom grand. Tu regardes, une des manifestations de l'onction, ça rend ton nom grand. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu vois? C'est-à-dire que Dieu a béni Abraham. Et quand il a béni, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un esprit de supériorité. C'est quoi? C'est l'onction. Regarde Deutéronome chapitre 1. Chapitre 28, à partir du verset 1. La même chose. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. Amen. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Amen. Et il a dit que c'est comme ça qu'on va faire des choses aussi grandes que lui, sinon même des choses plus grandes. C'est la même chose. Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, fera quoi? Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera la supériorité. Amen. Il te donnera la supériorité. Amen. Donc, c'est pas, il te donnera pas l'esprit de timidité, il te donnera pas la timidité, il te donnera pas l'infériorité, mais il te donnera quoi? La supériorité. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Mais la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est qui aujourd'hui pour toi? C'est qui la voix de l'Éternel ton Dieu? C'est le Saint-Esprit. Si tu obéis au Saint-Esprit, voilà les choses qui vont commencer à venir sur toi. Il a dit quoi? Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. On connaît ça par cœur. Regardez verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Regarde au verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira quoi? Son bon trésor. Dis le bon trésor. Tu vois? Il y a des gens, Dieu ne t'a pas encore ouvert son bon trésor pour eux. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Alléluia. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour faire quoi? Bénir tout le travail. Est-ce qu'il y a une partie du travail qui n'est pas bénie? Tout le travail. Quand quelqu'un est loin, tout ce qu'il touche est béni. Tout ce qu'il accomplit prospère. Tout ce qu'il touche est béni. C'est où tu es, oh my God, où tu es béni, où tu ne l'es pas. Il n'y a pas au milieu. Si aujourd'hui tu ne reconnais pas les indications de la bénédiction, c'est que tu dois encore travailler pour rechercher cette bénédiction-là. Et cette bénédiction, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient avec tout ça. Oh my God. Tu vois, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer dans ton pays, à ton pays, la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Oh, ça, c'est un fléau aujourd'hui dans l'Église et en France. Les dettes, les crédits. Une des manifestations de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est que tu vois, l'esprit de crédit, là, c'est fini. Il y a des gens qui confessent ce passage-là. Ils disent, oui, l'Éternel, je suis la tête et non la queue. La Bible dit, verset 13, mais la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quand l'onction descend, c'est pour te sortir de l'esclavage. Donc, tu ne peux pas demeurer un esclave. Esclave du système. À la fin du mois, dès que ton salaire arrive, les gens se partagent ça. Tes revenus, tes affaires, tu travailles pour les gens, tu deviens un esclave. Mais l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir, quand l'Esprit de Dieu descend, vient dans ta vie, c'est pour t'affranchir de l'esclavage. Ce n'est pas pour te maintenir dans l'esclavage. Ça veut dire que notre décision n'est pas encore, on essaie de garder, on veut montrer aux gens qu'on est béni. Donc, on va prendre les cartes de crédit dans les supermarchés pour acheter des habits et tout ça. Oh, ma soeur, tu vois, je suis béni, hein, oh, je suis oint. Quel oint, oint là? Tu ne prends pas crédit pour t'habiller. T'habilles à crédit. Oh, la Bible dit, et je dis cette affaire de crédit, c'est grave. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement, celui qui a un crédit, il reste sur la terre. Dites à vos amis que le pasteur J'aime Kakou a dit ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que si tu as un crédit, que tu es sur la terre, tu peux encore rembourser. Dès le moment où tu es enlevé, tu deviens quoi? Un voleur. Parce que tu pars avec un crédit que tu n'as pas remboursé. Donc Dieu, tu ne peux pas rentrer au ciel en tant que voleur. C'est-à-dire, à un moment, on va te dire, attends, va rembourser tes crédits. C'est sérieux. Ça, je vais vous dire que cet engrenage de crédit là, c'est l'une des plus grandes séductions de l'ennemi. Et ça touche 99,99% des chrétiens. C'est comme ça qu'il va saisir les... Oh, personne ne va bouger. C'est... Oh my God, my God, my God. Même, c'est un pasteur même. Ça passe pas. On dit, mon gars, tu dois payer les crédits. est vraiment devenu sérieux avec la bénédiction de Dieu. Mais on méprise même, non seulement on méprise l'esprit, mais on méprise aussi la bénédiction. Or, quand tu méprises quelque chose, tu ne peux pas l'attirer. Ça ne peut pas fonctionner pour toi. Ce n'est pas possible. Mais regarde ça. Oh. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. C'est ça notre problème. Obéis là. Oh my God, c'est ça. On cherche toujours des courts chemins, des raccourcis, des situations pour ne pas obéir. Oh, l'affaire, elle est simple. Obéis seulement. Obéis. Frère, obéis. Sœur, obéis. L'Esprit te parle, obéis. Ne va pas là-bas, c'est bon. Arrête. Écoute. Marche par l'Esprit. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Tu vas sortir des crédits. Alléluia. Tu vas sortir de toutes ces choses-là qui sont comme un marasme. La Bible dit, l'onction fera éclater le joug. Tu vas commencer à te libérer des chaînes avec lesquelles l'homme fort veut te retenir pour pouvoir piller ta maison. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Vous savez, effectivement, quand on a dit qu'on allait parler de l'onction pour les affaires, tout de suite, il y a des personnes qui se disent, ah, le pasteur va nous imposer les mains. Nos affaires vont commencer à marcher. Alléluia. Effectivement, on peut être béni. Amen pour les affaires. Mais il faut d'abord que les fondements soient établis. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et puis réussir dans les affaires. Dans tout ce que tu fais, il y a des sacrifices à faire. Et je vous ai dit que l'onction, ça coûte cher, ça ne coûte pas de l'argent. On achète, ça ne s'achète pas avec de l'argent, mais l'onction s'achète. Il le dit dans Isaïe, il dit, venez acheter. Achetez. Avec, vous n'achèterez pas avec de l'or ni avec de l'argent, mais vous allez acheter. L'onction, ça s'achète. Ne pensez pas que juste après une position des mains, des choses vont commencer à se décanter. Non, il y a un changement qui doit s'opérer dans votre cœur, dans votre vie d'abord. Un changement de position, un changement vis-à-vis du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, oh my God, c'est le Saint-Esprit qui va vous permettre de pouvoir réussir. Il dit, je ferai de toi la tête. Tu peux réciter, il y a des gens chaque matin, je suis la tête, je suis la tête, je suis pas. Non, il a dit, je ferai de toi. Comment il va faire de toi? Hein? Quand il va mettre l'onction sur toi, quand l'Esprit va venir en toi. C'est l'Esprit qui va faire de toi la tête. Toi-même, tu ne peux pas. Ça fait combien d'années que tu répètes, je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête. Parce que on va prier le Seigneur. Il y a des gens, ils connaissent tous les versets sur la prospérité, mais on dirait que ça les saute. C'est parce qu'il y a une décision, il y a un genre de vie qui accompagne ça. Amen. Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour spécial. Ce qu'on va faire, on va faire une simple prière. Amen. Demain soir, je pense qu'on aura encore. Je vais essayer vraiment de prendre un peu plus de temps. Amen. Amen. Pour pouvoir prier. Parce que là, il fallait établir la base. Mais aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon au Saint-Esprit. Tu vas remettre ta vie sur le plateau. Dis, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie. Alléluia. Aide-moi à avoir le genre de vie que tu bénis. Aide-moi. Aide-moi. Maintenant, les chrétiens sont devenus trop forts. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui que tu veux être sérieux maintenant. Tu vas arrêter de t'amuser. Il faut qu'il devienne sérieux. Tu dois devenir sérieuse. Tu dois devenir sérieux avec Dieu. Et Dieu fera des choses sérieuses dans ta vie. Les prières de tes enfants, Seigneur. Oh, ce soir, ils veulent se réconcilier avec toi. Ce soir, ils veulent te demander pardon. Ce soir, ils veulent remettre leur vie, Seigneur, mon Dieu, en règle. Oh, Seigneur, ils veulent que tu viennes les aider à mettre de l'ordre dans leur vie, dans leur ministère, dans leurs affaires. Que tu transformes leur vie, que tu mettes face de leur vie une vie que tu bénis, Seigneur. Une vie que tu bénis, Seigneur. Une vie que tu élèves, une vie que tu fais avancer, Seigneur. Oh, ils ont commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs. Nous avons posé des actes dans l'ignorance, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons vers toi parce que nous voulons rétablir notre relation. Nous voulons faire quelque chose de sérieux, Seigneur. Nous voulons que les œuvres de l'ennemi s'arrêtent définitivement dans nos vies. Nous voulons mettre une barrière, une séparation avec l'ennemi, avec les esprits impurs, avec les mensonges. Yes! Yes! Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia.